Journal du soir, François Claus, Thierry Dagiral. Soyez les bienvenus, il est 19h.
Qu'est-ce que c'est que Mars ? Mars est probablement la Terre congelée dans son passé, il y a 3 milliards et demi d'années, à une époque où la vie se développait sur Terre. Mais ce qu'on en sait, c'est que c'était une vie de bactéries.
Et on aimerait tellement en savoir plus. Décollage parfait en début d'après-midi pour le petit robot que la NASA envoie sur la planète rouge, un voyage de 9 mois pour tenter d'éclaircir le mystère de la vie sur Mars.
En attendant la vie sur notre bonne vieille Terre de France, c'était aujourd'hui la chaleur avec des pics à 40 degrés, une vague qui remonte doucement vers le nord.
L'Amérique de Donald Trump entre en récession, deuxième trimestre consécutif de baisse du produit intérieur brut qui chute de 32,9% sur les 3 derniers mois.
Les bourses accusent le coup, moins 3,45% à Francfort, moins 2,13% à Paris.
Et puis la nouvelle ministre du Logement qui affronte à Marseille, près de 2 ans après le drame de la rue d'Aubagne, la colère des victimes du mal-logement dans la deuxième ville de France. Paris Saint-Germain-Lyon, c'est la finale de la Coupe de la Ligue demain, dans un stade de France quasiment vide comme vendredi dernier, mais avec un très gros enjeu sportif pour l'OL de Jean-Michel Aulas.
La tendance météo, ce sera encore plus chaud demain, Valérie Darmon.
Ce vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine comme prévu, sauf le long de la façade atlantique où les températures vont baisser après les 41 atteints aujourd'hui par exemple à Mont-de-Marsan. C'est donc sur le centre et plus particulièrement la région lyonnaise que les températures seront les plus intenses dès demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Thierry Dagiral, François Claus.
Et ça y est, il a décollé à bord de sa fusée, le petit robot de la NASA, parti tout à l'heure de Cap Canaveral, direction Mars.
2, 1, 0. And lift off.
On se croirait un peu, on a marché sur la lune de Tintin, mais c'est un très grand voyage qui a ainsi débuté, car oui, il faudra 9 mois pour atteindre la mythique et mystérieuse planète rouge, mais équipé de son bras articulé, d'une caméra made in France à 45 millions d'euros, eh bien le robot de la NASA va scruter, décortiquer l'or d'Autriche, la roche de la planète, où l'on sait qu'il y a eu de l'eau, mais on s'interroge toujours sur la vie qui l'accompagnait.
Oui, sur Mars, il y a 3 milliards et demi d'années, l'eau coulait effectivement à flot. Mars était couverte de lacs et de rivières avant que la planète ne devienne froide et sèche pour une raison qui échappe encore aux scientifiques. Avant cela, donc, des microbes, des bactéries ont pu se développer. Il en reste peut-être des traces et ce robot va prélever une trentaine d'échantillons dans des tubes à la recherche d'une forme de vie. Il doit se poser précisément dans un gigantesque cratère de 50 km de diamètre où il y a eu des lacs et des rivières, explique l'astrophysicien Sylvestre Maurice.
C'est vraiment un delta lac-rivière qui va être intéressant. Et en signature infrarouge depuis l'espace, on a vu qu'il y avait des carbonates. Ce n'est pas une roche la plus intéressante, mais sur Terre, on sait qu'elle piège des traces de vie. Alors les traces de vie, ça va être soit des molécules organiques, soit leur signature minéralogique. C'est-à-dire que la molécule a disparu, mais elle a laissé derrière elle une empreinte.
Et ce robot emporte avec lui un petit hélicoptère qui tentera une première, le vol d'un appareil sur une autre planète que la Terre. Alors, 45 missions ont déjà eu lieu vers Mars, mais aucune n'est jamais revenue. Et là, pour la première fois, on va tenter de rapporter ces échantillons sur Terre. Pas tout de suite, dans 10 ans au minimum. C'est très compliqué de redécoller de Mars. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et au mois de février prochain, il faudra d'abord scruter l'arrivée du robot sur Mars. Étape très délicate. Lorsque les missions sur Mars échouent, c'est souvent au moment de l'atterrissage.
Eh bien, on suivra ça avec vous, bien sûr, l'heure d'Autriche. Vous l'avez compris, Thierry, 9 mois pour y aller. 10 ans pour en revenir. Mais pour découvrir un mystère vieux de 3 milliards et demi d'années, ça le mérite. Ouais.
19h03 sur Europe 1, la suite du journal. François Claus, Thierry Dagiral.
Allez, on descend sur Terre, retour à la réalité. Les États-Unis sont officiellement en récession, François.
Oui, et plus dur est la chute, j'ai envie de dire. Le confinement du printemps fait plonger le produit intérieur brut américain au deuxième trimestre de plus de 30%, 32,9% exactement. Cette baisse vertigineuse due, Emmanuel Duteil, à l'effondrement de la consommation.
Oui, hein, c'est tout simplement un recul historique. Alors, un recul que l'on peut un tout petit peu minimiser. Les États-Unis ne calculent pas la richesse produite comme nous. Si on prend notre méthode, le PIB recule de près de 10%. Bon, ça reste malgré tout un choc extraordinaire. Et comme vous l'avez dit, ça s'explique par le confinement. Dans un pays où consommer fait partie du quotidien, l'impact de la fermeture des commerces, des magasins ou encore des restaurants a été immédiat. Et la reprise ne sera peut-être pas aussi forte que prévu, déjà parce que beaucoup de monde est tombé au chômage. Il n'y a pas les amortisseurs sociaux comme chez nous en France. Et puis surtout, le pays a du mal à se sortir de l'épidémie. Dans certaines zones comme le sud et l'ouest, on peut même parler de recrudescence des cas de Covid.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. En 140 signes seulement, le président américain ouvre le débat, ouvre la porte à un gigantesque débat sur son compte Twitter ce matin. Il s'interroge sur le report des futures élections présidentielles, les garanties de sécurité du vote électronique à distance qui s'annonce absolument prépondérant en ces temps d'épidémie ne serait pas suffisante.
Elle était annoncée, eh bien, elle est bien là. Elle s'étend en plus, la vague de chaleur.
Et oui, elle est partie ce matin du sud-ouest où le thermomètre a atteint les 40 degrés. Elle gagne la région Rhône-Alpes et remonte doucement vers le nord où l'on prévoit 42 degrés demain à Auxerre. Yasmina Katou a joint cet après-midi Isabelle Dugelet, maire d'une petite commune, La Grêle, où on en manque peut-être, dans le département de la Loire, où il était préférable de se calfeutrer dans la fraîcheur des vieilles pierres.
La chaleur était écrasante, comme on dit écrasante, c'est-à-dire que quand je vous parle de cette chaleur écrasante, c'est le soleil qui brûle, hein, c'est vraiment, on n'a pas de souffle d'air aujourd'hui, c'est assommant. Après, c'est assez calme, hein, les gens restent chez eux, ils connaissent bien les précautions à prendre. Dans les bâtiments, on est vraiment au frais. Voyez-vous, là, je viens de vérifier la température au thermomètre, là, je suis à la mairie, j'ai 23 degrés dans mon secrétariat de mairie, parce que dehors, je ne sais pas, à midi, on était à 35 à l'ombre, mais là, on est peut-être pas loin de 40, peut-être dépassé, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, il fait très très chaud. C'est un village qui est composé essentiellement de maisons anciennes et des maisons de pierre, de granit. Ça présente un gros avantage, c'est la climatisation naturelle, c'est-à-dire que la chaleur n'est pas encore rentrée dans nos habitations. Et en conséquence, quand on prend la précaution de garder ses volets fermés, et bien on garde beaucoup de fraîcheur dans les maisons.
Eh bien voilà, il suffit d'avoir de bonnes vieilles pierres, se mettre à l'abri et se reposer pour supporter cette chaleur, comme témoignait cette maire d'une petite commune de la Loire, interrogée par Yasmina Katou.
En attendant, la préfecture de police de Paris annonce la mise en place demain, vendredi, de la circulation différenciée. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère 1 et 2 pourront circuler.
Pour limiter les réunions festives dans cette région si appréciée des touristes, les municipalités de Bayonne et de Biarritz, au Pays Basque, privées de leurs fêtes, décident en plus de rendre le port du masque obligatoire dans la rue à partir de lundi. Les plages seront interdites la nuit.
Il est 19h07. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, François-Claude Thierry Dagirel.
Une ministre au chevet du mal-logement à Marseille, nous y serons dans un instant. Une finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Lyon demain au Stade de France. Et des Lyonnais qui espèrent sauver leur saison sur un match. A tout de suite.
Du journal sur Europe 1, François-Claude Thierry Dagirel.
Et c'est un déplacement très symbolique que se devait d'effectuer la nouvelle ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon.
Oui, souvenez-vous, c'était il y a près de 2 ans, le drame de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. 8 morts, une vague d'indignation devant l'ampleur du problème de l'habitat indigne qui frappe Marseille. Et Emmanuelle Wargon, cet après-midi, a pu constater sur place, Stéphane Frangy, que les blessures sont loin d'être cicatrisées.
Ah oui, enfin pour les rares qui vivent toujours dans cette rue, éventrée depuis tout ce temps par un large périmètre de protection grillagée, puisqu'à côté des immeubles qui ont été rasés, eh bien, il y en a d'autres qui sont en mauvais état, avec des arrêtés de péril, et tous ont cette impression de ne pas être entendus, c'est pourquoi ils ont interpellé la ministre.
Moi qui habite juste en face des immeubles effondrés, j'ai plein de fissures dans mon immeuble, c'est juste invivable.
On est propriétaire occupant. Moi, je continue de payer mon crédit. On ne peut pas les vendre. Il n'y a plus personne. Les locataires, ils sont tous partis. Donc, on est coincé dans cette zone qui est une zone de guerre, qui est devenue une zone de non-droit. Parce que comme il n'y a plus d'habitants, c'est les dealers qui ont pris la place.
Voilà, et en réponse, Emmanuelle Wargon leur a promis des réunions de proximité et des aides au cas par cas. La ministre, qui souhaite également s'atteler au problème de l'habitat indigne, loin d'être réglé sur l'ensemble de la ville.
4500 personnes évacuées suite à des arrêtés de péril à Marseille. 1000 qui sont relogés dans des logements temporaires et environ 500 qui sont encore à l'hôtel, sachant qu'on a chaque mois maintenant des arrêtés de péril.
Et cette promesse de financement par l'État de travaux de rénovation, mais également d'un plan de construction de 10 000 logements supplémentaires sur l'ensemble de la ville.
Merci Stéphane Frangy, en direct de Marseille pour Europe 1. Le chauffeur du poids lourd responsable de l'accident sur la Nationale 2 aux abords de Laon, dans le département de l'Aisne, accident, rappelons-le, qui a coûté la vie à 4 enfants, a été mis en examen ce soir pour homicide involontaire, mais aussi pour un délit de fuite commis, semble-t-il, à Soissons quelques dizaines de minutes plus tôt. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il risque une peine maximum de 5 ans d'emprisonnement.
François, on termine à présent avec le football. Une semaine après sa victoire en Coupe de France, le PSG remet ça demain soir.
Même lieu, le Stade de France, même heure, 21h10, même protocole. Pas plus de 5000 personnes et une distanciation requise. Mais voilà, ce PSG-Lyon est aussi un match à très gros enjeux, notamment pour l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas, qui pourrait peut-être, en 90 minutes, sauver Julien Froment une calamiteuse saison.
En effet, dernière opportunité d'accrocher l'Europe et surtout une occasion en or de se resservir une coupe. L'entraîneur Rudy Garcia, dans une langue de bois qu'il maîtrise à merveille, a rappelé qu'il était important que l'OL reparte du Stade de France avec le trophée.
Ça fait trop longtemps que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné un trophée, 2012 je crois. Donc voilà, il faut absolument croquer à pleines dents dans cette opportunité et ramener le trophée demain soir à Lyon. Il n'y a que ça qui nous anime, c'est quelque chose de magnifique. Et voilà, donc on pense qu'à une chose, c'est ça. C'est pression positive, gagner ce trophée.
Et face à eux, François, des Parisiens qui devront faire sans Kylian Mbappé, grand absent de cette finale. Pour autant, Paris ne sera pas démuni. Thomas Tuchel compte bien poursuivre la razzia nationale et remporter un troisième trophée après la Ligue 1 et la Coupe de France. Mais pas question de faire des ultimes tests avant l'Atalanta Bergame, quart de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 12 août prochain. L'entraîneur allemand veut une équipe concentrée sur son objectif. Il sera temps ensuite de penser au club lombard.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et vous serez comme moi demain, Thierry.
Regardez, bien sûr, 21h10.
Mais non, écoutez,
bien sûr, ça c'est
carton rouge. Non, émission spéciale sur Europe 1 dès 20h.
Coup d'envoi 21h10 avec Lionel Rousseau, bien sûr. Et François Clauset, on sera là demain soir.
La bonne idée, c'est le rendez-vous de cet été après le journal de 19h, Thierry de Giral.
Bien sûr, on tire un coup de chapeau tous les soirs, vous le savez, à une initiative. Bonsoir Véronique Albou.
Oui, bonsoir.
C'est vous qui portez ce projet Bol d'air en Savoie, initié par Savoie Mont-Blanc Tourisme. L'idée, c'est d'offrir un chèque vacances de 100 euros pour 11 000 foyers qui viennent de le recevoir il y a quelques jours, je crois. Hein.
Exactement, ils l'ont reçu la semaine dernière. C'est une opération de grande solidarité qui a été initiée par la CAF de Savoie et le Conseil départemental de Savoie.
D'accord.
À l'issue du confinement pour aider ces familles savoyardes allocataires ayant des enfants.
Ah, Véronique Albou, je vous ai perdu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Visiblement pas. On va passer à la météo tout de suite. Valérie Darmon, le temps demain.
Oui. La hausse des températures qui se... la hausse des températures qui se poursuit même à l'heure où on se parle, hein. Et le temps qui devient plus nuageux, voire orageux entre l'Ardèche, la Loire, les Alpes de Haute-Provence. Ce soir, l'activité orageuse va faiblir, mais il va continuer de faire très chaud jusqu'en fin de soirée, avec en moyenne 25 à 28. La nuit prochaine, la chaleur humide va se maintenir avec des températures entre 19 et 22. Demain, ce sera la journée la plus chaude de ce début d'été à l'échelle de l'ensemble du pays, avec des températures qui vont atteindre ou dépasser 35 degrés sur les deux tiers de la France. On va atteindre les 40 degrés à Paris, 42 à Auxerre, à Bourges, à Lyon, à Grenoble. Samedi, le temps va rester lourd et humide avec des températures qui vont atteindre encore les 35-37 en région lyonnaise en début d'après-midi, avant une baisse progressive pour nous tous d'ailleurs dès dimanche. Et déjà demain, vous respirez davantage sur la façade ouest.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral, votre interview Le Monde d'après.
Oui, il les a souvent filmés, ces entreprises qui ferment, ces territoires oubliés, ces vies qui se transforment en révolte. Quel regard porte-t-il sur le positionnement de ce gouvernement Castex? Cette rentrée sociale, sans doute agitée, compliquée. Je reçois le réalisateur Stéphane Brisé dans 2 minutes en direct sur Europe 1.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagiral. C'est l'heure de l'interview Le Monde d'après. Et ce soir, quelle rentrée sociale? Vous en parlez avec le réalisateur de cinéma Stéphane Brisé.
Bonsoir Stéphane Brisé.
Bonsoir.
Alors, une vie, c'est vous. Quelques heures de printemps. Mademoiselle Chambon, la loi du marché. Toujours avec Vincent Landon. Vous deviez encore sortir un film dans quelques mois. Film retardé à cause du Covid, c'est bien ça?
On l'a fait, on l'a fini.
Il est fini.
Mais il devait sortir effectivement à l'automne et il sortira certainement dans le premier semestre 2021.
Ouais. Ouais. Qui racontera quoi?
Qui raconte l'histoire d'un cadre d'industrie pris entre le marteau et l'enclume, entre des injonctions qui arrivent d'au-dessus et qui ne sont pas applicables, plus applicables en tout cas en dessous.
C'est toujours votre thématique ça, hein?
En tout cas, c'est de tenter de regarder les dysfonctionnements, mais là, à la différence d'Anguerre où je suivais le combat et uniquement le combat, là on voit l'impact violentissime du combat qu'il mène à l'intérieur de son entreprise et ce qu'il subit Et la manière dont ça fait exploser intégralement sa vie de famille, parce que voilà, dans le film, il est marié avec Sandrine Kiberlin, il a un fils, Anthony Bajon, et c'est toutes ces deux histoires en parallèle qu'on suit.
Film que vous avez tourné, donc toujours avec, en effet, Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, près d'Agen. Cette France des territoires, vous aimez la filmer, vous la connaissez parfaitement. Quand Jean Castex parle de réarmer la France, de ressouder les territoires, vous vous dites qu'il se passait un truc, qu'il y a quelque chose qui a été... Il y a une prise de conscience ou pas?
En tout cas, c'est certainement le discours qu'il faut avoir en ce moment. Alors, je sais pas, il a une tête plutôt sympathique, donc on va... je ne connaissais pas ce monsieur, je ne connaissais même pas son nom.
Ouais.
Donc, il faut espérer que ce n'est pas des vœux pieux. Après, tout cet argent qui est promis, est-ce que finalement, il est fait pour reconstruire le monde d'avant et d'essayer de refaire de la même manière? Ça serait très, très dommage, puisqu'on force est de constater que ça ne fonctionne pas. Donc, si il y a de l'argent juste dans l'instant présent pour écoper et ensuite reproduire ce qui existait, je trouverais ça infiniment dommage.
Vous filmez ces patrons qui ferment leur boîte, les conséquences humaines que ça a. Quand Nokia licencie 400 personnes à Lannion, en Bretagne, que la ministre Pannier-Runacher va sur place pour se battre, là encore, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se passer, il y a une éclaircie?
On le souhaite. Après, quand le maire disait que c'est quand, au moment de Ford que c'était indécent de fermer une usine comme ça, qui était encore viable, il était le même quelques années auparavant, le gouvernement Sarkozy a œuvré pour que les lois qui permettent de fermer des entreprises rentables puissent exister. Donc, elle est où la vérité de,
Donc un changement n'est pas possible pour vous?
On le souhaite, en tout cas.
Est-ce qu'il peut y avoir eu une prise de conscience après cette pandémie historique?
Mais ça serait nécessaire. Ça serait nécessaire dans tous les écosystèmes. Moi, je peux le dire pour en parler dans le cinéma, mais ça serait nécessaire pour tout. Il y a un moment, pendant la pandémie, on était tous accrochés au discours d'Emmanuel Macron. Il a bien dit, et je n'ai pas rêvé, on était quand même plus de 20 millions à l'écouter, qu'on ne pouvait plus penser le monde de la même manière.
Ouais.
Et c'est à peine terminé qu'il ramène sur le tapis son projet de réforme de retraite. Donc, à quoi ça sert finalement? C'est juste, là, il n'y a pas d'idéologie, le constat de discours totalement contradictoire. Donc on veut bien croire des choses. Il a fallu en amont que les médecins, les soignants pleurent sans être écoutés. Il faut cette pandémie pour qu'à l'arrache, ils arrivent à avoir un peu d'argent.
Ça fait des décennies que le problème de l'hôpital public...
Il est géré comme des entreprises qui doivent être rentables.
Et justement, il y a de l'argent et il y a une restructuration pour que ça ne devienne pas justement un hôpital géré comme une entreprise. Il y a une petite avancée. Il a fallu ça pour peut-être essayer de comprendre deux, trois choses.
Il y a une revalorisation de certains salaires et c'est la moindre des choses. Mais est-ce que l'idée fondamentale des mécanismes de l'hôpital va être pensée? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas forcément entendu ça. Quand j'ai préparé ce film-là, que je passe aux entreprises, on s'est posé la question avec mon co-scénariste, Olivier Gorce, de savoir si on n'allait pas le placer dans l'hôpital. Parce que finalement, l'hôpital est géré comme une entreprise.
Ouais.
Et on avait vu des documentaires totalement hallucinants où il y avait des médecins, des soignants, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants en burn-out tellement la cadence n'était plus... ils ne pouvaient plus soutenir cette cadence.
Ouais.
Et je retrouvais là les mêmes mécanismes que dans l'industrie, que pour le coup, je maîtrise... plus depuis quelques années.
La rentrée, ça va être des dégâts économiques, des PME, des TPE dans l'angoisse, du chômage partiel, des fins de mois difficiles également, la peur du lendemain. L'État a quand même été là, à multiplier en effet l'argent, les plans de relance, les milliards, les aides. L'État-providence était quand même très présent.
Non, je n'appelle pas ça l'État-providence, j'appelle ça l'État qui fait son rôle d'État, de protection des individus dans un moment... De grandes tensions, de tragédies. On a vu que des gens, beaucoup, beaucoup de gens, sont passés immédiatement en mode survie. C'est-à-dire que comment on mange le lendemain? Ça veut dire qu'en amont, ces gens n'ont pas grande protection. Et tout ce qui a été construit ces dernières années, le modèle social a quand même été très, très, très violemment abîmé. C'est pour ça que des gens sont légitimement descendus dans la rue pour dire « Mais on a faim, quoi !» Donc, l'État, qu'on appelle l'État-providence, comme si tout à coup, il faisait grand seigneur, il protégeait les gens, c'est la moindre des choses, pour que les gens puissent tenir, que les industries, les entreprises puissent tenir, que les gens puissent manger, et ensuite relancer quelque chose. Mais encore une fois, c'est ensuite comment on va relancer les choses. À la dernière crise en 2008, on a renfloué les banques, et à la suite de ça, c'est reparti comme en 40, avec les mêmes mécanismes.
Stéphane Brisé, votre film La loi du marché, justement, raconte cette loi capitaliste, les délocalisations, le profit avant tout. Quand vous entendez les autorités dire il faut inventer un nouveau capitalisme plus respectueux des personnes, vous dites là aussi, peut-être qu'on avance, peut-être qu'on prend conscience, peut-être qu'on va sortir dans ce monde d'après.
Je vais vous dire, en fait, moi je crois finalement assez peu à l'impulsion du politique, mais je croirais presque plus à l'impulsion du marché. Finalement, des entreprises, il faudrait 10-15 mecs puissants en France qui diraient « on ne peut plus continuer comme ça ». Alors, ce n'est pas très romantique hein, comme pour réformer les choses, mais qui, de toute façon, le système, on est obligé de réduire la voilure parce que la planète est trop impactée, parce que socialement, il y a trop de tensions et qu'inévitablement, on va aller dans une forme de chaos. Mmh. Donc, il y a un système en place qu'on appelle le système capitaliste. Certains voudraient le faire exploser intégralement. D'autres, très fondamentalement, le réformer. Mais ça serait tout à fait possible que des chefs d'entreprise puissants, 15 ici, puis après qu'ils vont en agglomérer 15 ailleurs, puis à un moment, ils feraient modèle et qu'ils repensent la chose pour se dire juste, mais on ne peut pas continuer ainsi. Et finalement, le politique, il suivrait, puisque de toute façon, le politique, depuis longtemps, il suit finalement la puissance de la finance. Ouais.
Quelques mots sur le cinéma. Les salles sont dans une mauvaise posture. Ça vous angoisse, vous ?
Bah, l'écosystème du cinéma est violemment impacté. Donc, ça veut dire qu'il y a toute la chaîne qui souffre. C'est-à-dire que les exploitants souffrent. Il y a des salles qui ferment. Est-ce qu'elles rouvriront ? On ne sait pas. Il y a les distributeurs qui sont violemment impactés. Alors, il y a du chômage partiel pour ces entreprises. Jusqu'à quand il sera reproduit ? Là, le marché, il n'est pas prêt de repartir. Là, un seul chiffre. Ouais. Aujourd'hui, là, entre 70 et 80% de fréquentation en moins les salles. C'est phénoménal. Donc, on ne sait pas quand ça repartira. Il faut des aides massives pour la filière, mais il faudrait aussi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie, et ça serait justement faire vertu d'un moment tragique. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une réflexion sur comment on fait vivre les films en salle, puisque la salle, c'est le lieu magique pour les films, mais c'est aussi un endroit qui a du mal à accueillir tous les films, et je pense qu'on pourrait réfléchir à une mutualisation des supports pour voir les films au moment où ils sortent.
Stéphane Brisé, votre film sort
Il sortira
en 2021.
J'aimerais bien vous le dire, mais ça sera début 2021.
Et le titre ?
Un autre monde.
Merci, grand merci à vous d'être passé sur Europe 1 ce soir. Merci.
Europe 1. Et à suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Desjirel.
Restez avec nous, 19h30, tube d'été avec un tube de 1983, Les Doux Rêves d'Annie Lennox. Et puis à 19h42, France, on part en balade ce soir, direction les Charentes-Maritimes. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1, on revient tout de suite.
Votre grand journal d'histoire sur Europe 1, c'est avec vous Thierry Dagiral.
L'essentiel de l'information avec François Clous.
Le chauffeur du poids lourd qui est venu percuter une voiture sur la Nationale 2 aux abords de Laon, provoquant, on s'en souvient, la mort de 4 enfants, a été mis en examen ce soir pour homicide involontaire. Il risque 5 ans de prison. C'est par un simple tweet que le président américain ouvre un gigantesque débat aux États-Unis. Faut-il ou non reporter les élections présidentielles américaines ? L'argument, on le connaît, les garanties de sécurité du vote électronique à distance, qui s'annonce prépondérant en ces temps d'épidémie, ne seraient pas suffisantes. Cette question de Donald Trump apparaît au moment où il décroche également dans les sondages pour sa gestion calamiteuse de la pandémie. On enregistre 150 000 décès aux États-Unis. L'Amérique, de son côté, qui confirme qu'elle est en train de vivre sa plus grave récession depuis 1929, elle subit une chute spectaculaire de 32,9% de son PIB au deuxième trimestre. Ça signifie la récession. C'est sous une très forte chaleur que le président Macron a rejoint son lieu de villégiature. C'est difficile à 19h30.
Oui. Hein.
Le fort de Brégançon où il passera 3 semaines de vacances en famille. La vague de chaleur du sud de la France remonte doucement à la vallée du Rhône jusqu'en Bourgogne où des températures à plus de 40 degrés sont annoncées pour demain. Attention, à Paris, circulation alternée. Un seul, les vignettes critères 0, 1 et 2 auront le droit de rouler. Et puis un mot sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui devra s'expliquer devant la justice suisse, qui annonce qu'une enquête est ouverte. Soupçon de collusion entre Infantino et l'ancien procureur qui enquêtait sur les faits de corruption. Les deux hommes se seraient rencontrés à de nombreuses reprises. L'ancien procureur qui avait lui-même démissionné après ces révélations.
Merci beaucoup François Clous, allez vous reposer un peu.
Hein, et à demain.
Allez, à demain. La météo des plages, Valérie Darmon, avec des nuages sur l'Atlantique.
Bah oui, c'est un peu difficile avec la chaleur, hein, même si on respire mieux sur les bords de mer avec ces températures qui chutent demain et quelques nuages sur la partie sud. Alors elles perdent presque plus de 10 degrés hein, par endroit, avec 26 annoncés à Lacanau par exemple, 24 à Vieux-Boucau, 25 à Saint-Jean-de-Luz, quelques nuages donc sur la partie sud, plein soleil au nord à partir d'Auray jusque sur Royan avec des valeurs aux alentours de 23-25 degrés, un océan très très calme entre 18 et 24. Lui aussi. Et puis c'est orageux en mer du Nord, hein, depuis Boulogne-sur-Mer jusque sur Fécamp, Étretat, avec des valeurs à 33 degrés sur les plages. Plus au sud, enfin surtout plus à l'ouest, hein, depuis Brest jusqu'à Cherbourg, il fait moins chaud avec 23 degrés et un plein soleil, et une eau entre 17 et 20 degrés. Des nuages aussi sur le Roussillon et sur l'Hérault dans le ciel, et pour une eau de baignade entre 22 dans l'Hérault et 26 dans les Alpes-Maritimes, et du soleil depuis les Bouches-du-Rhône jusqu'au Var.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous Thierry Dagiral. Dans un instant, on ira en Charente-Maritime pour Douce France, mais tout de suite place à la culture avec Angèle Châtelier et Nicolas Caro.
Et c'est l'avant-dernier rendez-vous. Eh oui, Angèle avec vous, Angèle Châtelier, tous les soirs, on a passé un si bel été avec vous. Avec cette séquence rétro, ce soir, tube d'été,
oui.
Quelle année ?
83, avec une chanson à l'apparence un peu sombre qui vous a pourtant fait danser tout l'été.
Eurythmics.
Galette.
Sweet Dreams.
Et oui, Sweet Dreams, Eurythmics.
J'étais fan.
Moi, je préfère la version Marilyn Manson, mais ça se trouve, elle va en parler, Angèle.
Alors, attendez, on va l'écouter. Hein. Chanson sombre, oui, car Annie Lennox, la chanteuse, est complètement déprimée au moment où elle l'écrit avec son partenaire musical Dave Stewart. Elle sent que la musique, c'est pas pour elle. Leur premier album est un flop. Alors, dans Sweet Dreams, en deux couplets et c'est tout, Annie Lennox parle de ce rêve, vive de sa musique, qu'elle n'arrive pas à réaliser. Mais alors, la chance, le titre est un carton à sa sortie en 83. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
Puis il faut en parler, bien sûr, Angèle. Il y a le look.
Oui, le look d'Annie Lennox qui a contribué au succès du groupe. Annie Lennox marque les esprits. Son look androgyne, ses cheveux orange, ses tenues extravagantes. Et ouais. Puis ses provocations, comme dans le clip de Love is a Stranger, où Annie Lennox incarne dans le clip une prostituée de luxe. Alors Eurythmics enchaîne les tubes dans les années 80. Il y a ce titre, hein, Love is a Stranger, mais aussi Here Comes the Rain Again ou Don't Ask Me Why. Promises sweet, promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Dave Stewart et Annie Lennox se séparent en 1990. Elle se lance dans une carrière solo. Tous les deux, avec Eurythmics, ont été nommés en 2018 pour intégrer le Rock and Roll Hall of Fame, l'une des plus prestigieuses distinctions du milieu de la musique.
Sweet Dreams. Eurythmics en 1983. Merci beaucoup, Angèle. À demain.
À demain.
Nicolas.
Oui.
Nicolas Caro, cette semaine, vous nous emmenez visiter les mers et les océans du monde.
Avec un atlas un peu particulier. Ça s'appelle Atlas des fortunes de mer. Fortune, pas dans le sens de trésor, mais plutôt de destin, de coup du sort. Vous vous souvenez de vos cours de latin, Thierry.
Fortuna, fortuné.
Cyril Hofstein, dans cet atlas, a répertorié des énigmes, des mystères, des histoires de toutes sortes, avec un point commun, donc la mer.
Par exemple,
est-ce que vous connaissez l'histoire de la Marie Céleste? Nous sommes le 4 décembre 1872 au milieu de l'Atlantique, du côté des Açores. Un navire, le Dei Gracia, passe par là et il croise un autre bateau. C'est très bizarre, les voiles sont mal réglées. La plupart d'entre elles faceillent ou sont déchirées. Le Dei Gracia s'approche, il envoie des signaux, pas de réponse. Bon, il s'approche encore. Le navire s'appelle la Marie Céleste. Il se trouve que le capitaine du Dei Gracia connaît le commandant de la Marie Céleste, Benjamin Briggs. Or, il n'est pas à bord. D'ailleurs, il n'y a personne à bord. Le canot de sauvetage n'est plus là non plus. plus.
Et donc, l'équipage s'est mutiné, ils ont tué le capitaine, ils sont partis.
C'est ce qu'on a cru, mais il n'y a aucune trace de violence, toute la marchandise est encore là, toutes les vivres aussi, la cuisine est en bon ordre, tout est briqué, c'est un mystère, un vrai. Des dizaines de théories ont circulé. Conan Doyle, lui-même le père de Sherlock Holmes, a mené l'enquête, mais on ne sait toujours pas où a disparu l'équipage de la Marie Céleste.
Et des mystères comme celui-ci, il y en a beaucoup d'autres.
Plein, la mer fourmille d'énigmes et d'histoires étranges, c'est dû sans doute à la peur qu'elle a longtemps inspirée et qu'elle inspire encore. Il faut craindre la mer, c'est une question de respect.
Et vous nous en racontez un autre de mystère, Nicolas.
Vous avez sans doute déjà entendu parler du Hollandais volant. C'est une histoire qui date du XVIIe siècle, en fait. C'est un mythe et la légende raconte que l'histoire d'un capitaine hollandais tyrannique qui refuse de laisser son équipage se reposer avant d'avoir passé le cap de Bonne-Espérance. Pourtant, il y a un ouragan, c'est extrêmement dangereux. Le marin qui tente de se révolter pour l'en empêcher est abattu froidement et dans sa folie, le capitaine hurle face au vent « Je franchirai ce cap, dussé-je naviguer jusqu'à la fin des temps ?» Or, un esprit traînait par là, pas de chance, et condamne le capitaine à une malédiction éternelle. Il le prend au mot, le bateau et son capitaine errera pour toujours entre le Cap Horn et le Cap de Bonne-Espérance pour l'éternité. Sauf que le capitaine a le droit de passer une journée à terre, une seule, tous les 7 ans. Si pendant cette journée, il trouve une femme qu'il aime, il sera délivré de sa malédiction.
Et donc, Nicolas, on peut croiser encore aujourd'hui sur les mers. Il apparaît pendant les tempêtes, c'est bien ça ?
Absolument. Ouais. Et le dernier qui l'a vu, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'il a trouvé l'amour depuis, on ne sait pas.
Voilà, cette histoire et plein d'autres. Donc, dans l'Atlas des fortunes de mer, c'est cher, toi. Hein ?
Oui, et on peut noter qu'une partie des gains est reversée à la SNSM, les sauveteurs en mer. Double raison d'acheter ce livre.
Bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas.
Et à 19h38 sur Europe 1, c'est l'heure du coup de fil culture, la culture qui, Thierry, doit se réinventer cet été.
Et oui, direction la Normandie. Bonsoir Enrique Terrin.
Bonsoir.
Vous êtes président du festival Les Musicales de Normandie, ça commence ce soir, c'est ça, hein ?
Exactement, là je suis à Varengeville-sur-Mer, au musée Michel Séry pour le premier concert.
Jusqu'au 29 août, il y a 10 concerts en tout, hein. Varengeville, près de Dieppe, l'abbaye de Jumièges, etc. Enfin des lieux en plus assez formidables.
C'est ça, le principe, c'est de sillonner la Normandie et les lieux patrimoniaux les plus emblématiques du territoire.
Ouais. On va célébrer bien sûr les 250 ans de Beethoven.
Exactement, donc plusieurs concerts, notamment ce soir avec les deux sonates opus 27 de Beethoven, qui je pense est un bon exemple dans ces temps troublés, Beethoven, puisqu'il a continué de composer malgré sa surdité. Mmh. Et là, c'est vrai que le Covid nous empêche d'organiser quand même les concerts comme on voudrait.
C'est ça.
Et je pense que voilà, c'est un bon exemple de ce Beethoven qui a triomphé de l'adversité.
C'était prévu au mois d'avril initialement, hein ?
En fait, alors, on avait 30 concerts qui étaient prévus, qui étaient lancés. Et évidemment, on a tout revu suite au Covid. Et ouais. Donc, on a réduit l'édition de 2/3. Ouais.
Et la participation est libre ? C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent quand ils viennent voir ?
Ça, c'est une particularité cette année, en effet, puisque les conditions d'écoute vont être particulières avec les masques, la distanciation. Et on n'aura pas le même contact qu'habituellement avec les artistes. On a décidé cette année de faire une entrée à participation libre, en effet.
D'accord. Les renseignements sont sur internet musical au pluriel tradeunionnormandie.com. Il y a toutes les informations, toutes les dates pour réserver. C'est mieux de réserver, j'imagine.
C'est mieux de réserver puisque les concerts vont être assez vite complets, puisqu'on est sur des jauges assez réduites, malheureusement. Ouais. Et donc, ouais, il vaut mieux réserver en avance.
Et ce soir, donc, à Varengeville, près du cimetière sur la tombe de Braque.
Exactement, et de Roussel.
Exactement. Et il doit faire un temps merveilleux. La vue doit être sublime.
C'est magnifique.
Bon coup d'envoi de ce festival ce soir. Merci et merci à vous, Enrique Terrin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1. Et dans un instant, Thierry, on part en balade sur Europe 1 dans le Grand Journal du Soir.
Ouais, c'est tous les soirs dans ce 18-20-12 France. On se promène, vous savez, dans nos belles régions de France. Ce soir, on part dans les Charentes-Maritimes. Embarquement immédiat dans 2 minutes sur Europe 1.
Le Grand Journal du Soir part en balade douce France. C'est tous les soirs avec le plein d'idées de sorties, de visites, mais aussi à la découverte des produits régionaux. Et ce soir, Thierry, nous sommes en Charente-Maritime.
Exactement, on est à côté de l'île de Ré, on est en face de Rochefort. Premier arrêt ce soir sur l'île d'Oléron. On va aller visiter un marais salant. Bonsoir Marie Duverger.
Bonsoir.
Vous faites visiter ces marais salants. La visite, elle dure quoi, 1 heure ?
Oui, c'est ça exactement, 1 heure en plein cœur du marais.
Et on voit comment on récolte ce fameux sel, c'est ça ?
Tout à fait, voilà, on va expliquer le fonctionnement du marais salant. Et puis là, en pleine période de récolte, en été, on peut voir le saunier travailler. Donc, on peut le voir récolter sa fleur de sel et son gros sel.
C'est ça, parce qu'il y a différents sels hein, et différents outils de récolte.
Oui, tout à fait. Donc, la fleur de sel, c'est le premier sel qui se forme dans le bassin de récolte. Donc, c'est un sel qui se forme à la surface de l'eau. Il est récolté avec la lousse.
Ouais.
Quant au gros sel, il se forme au fond du bassin et là, le saunier utilise une scie mouche.
D'accord. Et il y a aussi pas mal d'animaux quand on se promène. On voit pas mal de faunes différentes.
Oui, le marais, c'est très riche en termes de biodiversité puisqu'on va être sur un milieu qui présente vraiment une mosaïque d'habitats. Donc, pour tout ce qui est au niveau des oiseaux notamment, on va avoir des espèces telles que les échassiers, donc les crêtes garzettes, les chasses blanches ou le héron cendré qui vont venir se nourrir et même faire leur nid hein, dans le marais.
Ah oui, d'accord. Et il voilà. Y a un écomusée également ?
Oui, l'écomusée, donc, c'est 4 cabanes d'exposition sur le thème du sel et des marais. Et il y a une cabane consacrée à la biodiversité également, avec des jeux pour le jeune public hein, dans chaque cabane d'exposition.
Donc c'est bien, c'est très pédago pour les mômes, ça c'est parfait. Ce qu'il faut dire, c'est que sur l'île de Léron, il y a une vraie tradition. Ça fait depuis quand on cultive le sel?
Oui. Donc ça date, les premières traces de marais salant datent du XIIe siècle,
l'île
de Léron.
D'accord.
Avant ça, on ne sait pas s'il y en a eu auparavant, mais voilà, on a des preuves, hein, comme quoi dès le XIIe siècle, on faisait du sel sur l'île de Léron, et c'est vraiment une activité ancestrale. Pendant de nombreux siècles, ça a été la principale activité économique de l'île.
Bon, parfait. Écoutez, à voir, il faut s'arrêter donc chez vous, hein, si on est tout près de l'île de Léron. Grand merci à vous, Marie Duverger. On va donner les tarifs, Géraldine.
Oui, les adultes paieront 4,50 € et les enfants 3 €.
Alors, on va quitter Oléron, on va repasser par Rochefort, direction La Rochelle, 80 km, 1h20 en voiture. On va aller visiter l'aquarium de La Rochelle. Bonsoir, Ambre Beignet.
Bonsoir.
Vous en êtes la directrice générale. Tout l'été, l'aquarium ouvre ses portes de 19h à 23h, donc c'est jusqu'au 26 août, en plus de la journée.
Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle les nocturnes, en tamise les lumières. Et ça permet, durant ces grandes vacances d'été où il y a beaucoup de tourisme dans la région, de pouvoir visiter dans le calme et de découvrir aussi des espèces.
Ah ouais. 800 000 visiteurs par an depuis 18 ans maintenant. Il y a combien d'espèces différentes ?
Oh, on est sur plus de 600 espèces différentes, 12 000 animaux au total à peu près, qu'on comptabilise globalement. Et effectivement, c'est un voyage d'une heure et demie à travers les mers et océans du globe. Au départ de Charente-Maritime, bien sûr, avec l'Atlantique. Et puis, un détour vers la Méditerranée. Ensuite, on rejoint le Grand Large qui nous amène dans les Caraïbes, l'Indo-Pacifique, avec bien sûr le clou du spectacle, le grand aquarium des requins.
C'est ça, immense aquarium aux requins. Il y a combien d'eau salée là-dedans ?
Oh, il y a 1,5 million de litres d'eau.
Et des vitres de 17 cm.
Aussi, oui.
Ce n'est pas seulement un aquarium, c'est aussi un centre d'études et de soins, là encore. Hein.
Oui, tout à fait. L'aquarium abrite maintenant, depuis de nombreuses années, un centre d'études et de soins pour les tortues marines.
Ouais.
Nous sommes le centre habilité à s'occuper de toutes les tortues qui s'échouent durant l'hiver sur la côte atlantique. Et puis, elles sont ramenées, grâce à un réseau de partenaires, à l'aquarium La Rochelle pour être soignées. Et ensuite, on a le plaisir de pouvoir les remettre à l'eau une fois qu'elles ont pu être sauvées.
Et Ambre Beignet, en ce moment, avec bien sûr la pandémie, vous avez dû réduire les jauges. Comment ça se passe ?
Oui, effectivement, on a réduit de plus de la moitié la capacité de fréquentation de l'aquarium. Et puis, on invite tous nos visiteurs à porter un masque, ce qui est bien pour plonger dans les océans aussi.
Parfait. Donc, l'aquarium de La Rochelle, il est sublime. C'est vraiment à visiter. Grand merci à vous, Ambre Beignet. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Merci, vous aussi. On va donner les tarifs,
Géraldine.
Oui,
pour
Géraldine.
Les plus de 17 ans, c'est 16,50 €. À partir de 3 ans, pour les enfants, c'est 12 €. Et les dernières entrées, c'est à 21h30.
On dort où ce soir ? Une bonne adresse avec vous, comme tous les soirs, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Thierry. À La Rochelle, je vous ai trouvé un hôtel de circonstance, le Masque Hôtel. Ça ne s'invente pas. Un bel hôtel contemporain à mi-chemin entre le vieux port et la gare, idéalement placé. Il y a 76 chambres, dont 3 suites, certaines avec des petits balcons, mobilier design de belle facture, Stark, Max Alto, Tonnet. Et puis une belle vue des chambres du 4e étage où l'on voit les tours du port. L'hôtel a été construit par Michel Dufour, Grand Prix de Rome.
Ah oui, le tarif ?
Alors, autour de 140 euros environ, c'est un Best Western Mask Hotel à La Rochelle. À demain.
Merci beaucoup, Philippe. Bien sûr, à demain.
Et on poursuit notre balade ce soir dans Douce France. On se met à table, nous sommes en balade en Charente-Maritime.
Thierry. Et on accueille Marion Sauveur. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Et on tartine ce soir. Et moi je déguste.
Beurre. Oui, je vous laisse déguster. Hein. C'est pas n'importe quel beurre, puisque c'est du beurre Charente-Poitou. C'est le premier beurre à avoir été labellisé en 1979. Alors il n'y a pas toujours eu du beurre dans la région. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle quand un insecte s'est attaqué aux vignes. C'est le fameux phylloxéra. Il les a complètement détruites. Des producteurs de lait vendéens ont alors migré sur ces terres. Ils ont apporté avec eux la culture du beurre et des beurreries ont été créées un petit peu partout. Alors, je vous emmène justement fabriquer ce beurre dans la laiterie de la coopérative laitière de la Sèvre. On quitte donc La Rochelle pour Échiré, un petit village à une heure de route. On est à côté de Niort. On arrive donc dans la beurrerie. Elle a été créée en 1894. Elle a été installée à côté d'une source d'eau très pure et vous allez voir, c'est très important pour fabriquer du beurre de qualité comme ce beurre d'Échiré, un beurre d'exception qui a reçu d'ailleurs le prix de l'excellence française. Et on y retrouve le directeur commercial Guillaume Ribadière.
Bonsoir Guillaume Ribadière.
Bonsoir Monsieur Dagiral.
Qu'il est bon votre beurre, vous savez. Un bon pain et un bon beurre, ça fait un repas quoi.
On ne s'en lasse pas.
C'est vrai. Hein. Guillaume, on fabrique toujours le beurre dans la région comme au 19e siècle ou pas? Il y a une vraie tradition.
Alors, nous avons quand même été électrifiés depuis il y a fort longtemps. Nous avons néanmoins conservé en fait tous les traits d'un beurre traditionnel.
Ouais.
Voilà, donc le premier trait du beurre d'Échiré, c'est que c'est le seul beurre AOP qui est baratté en tonneaux en bois.
D'accord.
Donc en discontinu, on fabrique 800 kilos par baratte en bois à la fois.
Ouais.
En résumé, notre objectif n'est pas de fabriquer le plus possible, mais de conserver une qualité optimale, et ça depuis 126 ans.
Et comment justement on fabrique du bon beurre? Racontez-nous, faites-nous un peu rentrer dans les coulisses.
Alors, pour faire du bon beurre, il faut du bon lait, comme toujours.
Ouais.
Donc, nous sommes une coopérative.
D'accord.
Tout à fait. Nos producteurs sont situés à proximité de nos laiteries. Ce sont souvent la cinquième ou la sixième génération de producteurs. Leurs vaches sont nourries sans OGM depuis plus de 23 ans.
D'accord.
Ce qui est quand même assez étonnant. Donc cette collecte, la collecte se fait toutes les 48 heures. Une fois que le lait est dépoté à la beurrerie, il y a l'écrémage du lait. On transfère la crème dans les barattes. Puis démarre une phase de maturation qui est une maturation biologique, c'est le propre du beurre AOP, hein, je dis bien le beurre AOP, pas uniquement le nôtre, pendant 18 heures.
D'accord.
Voilà. Et donc, pendant 18 heures, pourquoi? Pour laisser le temps aux arômes de se développer. On baratte la crème. Donc la crème se transforme en chantilly, puis en grains de beurre. En beurre, le prend en masse. Il est nettoyé à deux reprises pour une partie importante du process pour éviter un rancissement accéléré.
Avec cette eau pure dont je parlais tout à l'heure.
Hein. Oui, tout à fait, avec cette eau pure, absolument. Tout
parfait.
À fait. Voilà. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que le barattage est important en baratte, tonneau, puisque ça permet en fait à la matière première d'être la plus respectée, la moins abîmée.
D'accord.
Et donc d'offrir une malléabilité et un goût incomparable.
Guillaume, très rapidement, pour nous consommateurs, comment on choisit le beurre dans un rayon? Comment on repère un bon beurre? Allez, vraiment deux, trois petites conseils.
Je ne voudrais pas me faire des mythes. La première des choses, pour choisir un bon beurre, sans nommer les marques, vous avez différents symboles. Le premier symbole, c'est l'AOP. C'est la sauvegarde et le maintien d'une tradition avec un process traditionnel.
D'accord.
Le deuxième aspect, c'est bien évidemment le format.
Ouais.
Le format du beurre, en rouleau, en mode, en plaquette. Et puis, dernière, c'est la marque, pour ceux qui tiennent vraiment à acheter une marque.
Parfait. Merci beaucoup, Guillaume Ribadière. On retrouve bien sûr votre beurre échiré dans les grandes surfaces et les fromageries. Marion, allez, hop, on reprend la route.
Oui, avant de partir, arrêtez-vous à la boulangerie et tarterie Confidence Gourmande Déchirée. Hein. C'est le meilleur ouvrier de France, Éric Chevalereau, qui réalise une galette pur beurre comme un broyé du Poitou. La spécialité de la région, elle est moelleuse et croquante à la fois. C'est un délice, on sent bien le beurre. Hein. Alors, je vous ramène maintenant à La Rochelle hein, pour mettre les pieds sous une très belle table, celle de Christopher Coutenceau, sur la plage, à côté du Vieux-Port. Le chef cuisinier-pêcheur est un fervent défenseur de la pêche durable et de la cuisine anti-gaspillage. Il propose une cuisine d'exception. Il a d'ailleurs été récompensé d'une 3e étoile Michelin cette année. Et on est chez lui vraiment dans le partage et la gourmandise.
Bonsoir Christopher Coutenceau.
Bonsoir à tous.
Le beurre, c'est pour vous un élément indispensable de la cuisine ?
Ah bah écoutez, non seulement un élément indispensable de la cuisine, mais on est en Poitou-Charentes, donc produit aussi... de tradition et c'était un petit peu les goûters qu'on était enfant, hein, oui, un bon pain avec du vrai beurre et un bon chocolat, et le tour est joué.
On y est dessus. À votre table, vous proposez en début de repas un chariot de pain où le beurre est à l'honneur.
Voilà, donc on fait tous nos pains à chaque service, hein, une gamme de 4 à 5 pains. Mm-hmm. Donc un pain feuilleté au beurre et algues marines et après bien sûr on a notre petit chariot de beurre. Donc beurre doux, beurre à la fleur de sel de l'île de Ré. Et on réalise notre beurre aux algues avec la maison échirée depuis plusieurs années.
Dites-moi, le beurre, c'est un élément indispensable de certains de vos plats, notamment de vos sauces. Au diable les régimes, allons-y, racontez-nous.
Au diable les régimes, c'est des bons régimes hein, de mais manger oui, bien bon, et sainement.
Sain, hein, exactement, partie, vous avez raison.
C'est, comme je dis toujours, c'est l'essence du moteur... pour l'être humain.
C'est vrai.
Mais alors oui, évidemment, le beurre, grande tradition de la gastronomie française, hein, pour lier les sauces, pour rôtir un joli filet de poisson au beurre mousseux. Mmh. Et c'est vrai que le beurre est un exalteur de goût, fait ressortir les arômes du produit.
Et Christopher, vous utilisez aussi le beurre dans un de vos desserts, le dessert de l'Estran, c'est ça ?
Voilà, donc un dessert 100% marin, donc... une brioche à la laitue de mer, donc aux algues de chez nous, ouais. Qui est rôtie comme ça au beurre pour faire ressortir ce côté iodé des algues marines. Mmh. Et après, bien sûr, on sert un sorbet à l'huître et citron, granité d'eau de vie d'algues. Et c'est vrai que le beurre sur ce dessert a sa place entièrement.
Merci beaucoup, Christopher Coutenceau. On déguste votre cuisine dans votre restaurant éponyme, bien sûr, à la Rochelle. Merci Marion Sauveur, on vous retrouve demain dans la matinale de François Geffrier.
Oui, et avec des macros, et on en parlera justement demain soir dans 12 France, puisqu'on sera à Marseille.
Oh, quel bonheur, on est à Marseille demain soir. Dans un instant, le festival idéal d'Émile Mazoyer, c'est tout l'été sur Europe 1 avec des lives ce soir. Nino Ferrer et Coldplay. Vive la vie, Coldplay live in Buenos Aires, ce soir chez Émilie. Merci beaucoup Géraldine.
Merci Thierry, à demain.
On se retrouve demain bien sûr, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Christophe Pierrot à la réalisation, on se retrouve demain dès 18h avec plaisir sur Europe 1 pour écouter ensemble Le Monde.